On est place Sainte-Catherine, un peu au cœur de Bruxelles, mais on s'en va hors de Bruxelles, hors de Belgique, en Italie, pour un peu parler de ta pièce de théâtre, ta première pièce de théâtre, Arancé. Peux-tu nous dresser le sujet de cette pièce ?
Eh bien, Arancé, avoid the shooting blacks, qui veut dire orange comme les fruits, éviter de tirer sur les noirs, c'est une pièce. L'idée est née il y a en 2010, donc ça fait plus de 5 ans. Et ça traite des émeutes qui ont éclaté en Italie à cette période-là, 2010, 2011, 2013. C'est des saisonniers, en fait, majoritairement africains, qui se révoltent au milieu des campagnes pour demander des meilleures conditions de vie et de travail. Et aussi parce qu'ils étaient agressés, donc ils subissaient des violences physiques, des chantages de la part de la population locale. Donc je suis tombé complètement par hasard sur ce sujet. Je ne m'attendais pas à cette situation, donc j'étais un peu naïf. Du coup, je suis allé à la rencontre de ce paysage. Je suis parti dans les campagnes avec aussi l'équipe et on a rencontré les migrants. On a rencontré un paysage fait de bidonvilles et on a commencé à reconstruire un peu toute la chaîne de migration, d'arrivée, de comment ces gens tombent dans ce piège, de comment, qu'est-ce qu'ils cultivent, pourquoi ils cultivent dans ces conditions, où vont les fruits, voilà, toute la chaîne de diffusion, de production et jusqu'à la consommation. Donc le sujet est assez vaste, mais en fait, fait la synthèse de phénomènes assez différents, assez élargis, et le spectacle cherche à les mettre ensemble, en fait.
Dans une entrevue, tu parles d'esclavage moderne.
Pour moi, c'est de l'esclavage du moment où ces gens n'ont pas de choix. Bien évidemment, ils ont le choix de venir ou pas venir en Europe. Et même ça, ça se discute. Une fois qu'ils sont en Europe, donc une fois qu'ils ont traversé le désert, la Méditerranée, etc., ils arrivent sur le territoire européen. Ça peut être l'Espagne, la Grèce ou l'Italie dans ces cas. Et là, ils doivent survivre. Donc, parce qu'il n'y a pas les structures d'accueil, il n'y a pas les systèmes, je dirais, les budgets qui vont avec. Donc, la majeure part tombe dans des travaux où ils peuvent être exploités, comme le bâtiment, comme l'agriculture, comme les textiles, comme d'autres métiers aussi. Ils doivent accepter des conditions de travail sous chantage parce que c'est des personnes en difficulté et en faiblesse. Souvent n'ont pas de papier, ne peuvent pas avoir des droits. Depuis 2008, ils n'ont même plus le droit à une carte médicale spéciale qui était prévue en Italie, donc pour avoir de l'assistance sanitaire. Donc ils sont en faiblesse. En plus, il y a vraiment l'aspect d'être coincés. Ils n'ont pas non plus la liberté de revenir en arrière ou de bouger, de changer de pays, d'améliorer leur situation. Donc, pour eux, l'Italie, l'Europe, devient une cage, en fait. Donc, et on peut les exploiter, on peut leur faire des chantages, on peut... Voilà, eux sont obligés d'accepter des travaux très mal payés et en plus, on ne leur loue pas une chambre, on ne leur loue pas une maison, donc ils vont construire leurs abris dans les campagnes. Et je crois que c'est de l'esclavage moderne parce que au système de production agricole qui s'est constitué en Europe depuis 50 ans, depuis la PAC, a besoin de cette main-d'œuvre à ce bon marché. Et on est seulement dans une phase mûre qui a commencé à la fin des années 80 et qui est déjà en train de se transformer parce que la production agricole se déplace de plus en plus sur les bords de l'Afrique du Nord, en fait. Les ports, les fameux ports coloniaux dont parle Pasolini, qui Marseille, Naples, Gênes, la Calabre, Anvers, etc. L'Europe est en train de le déplacer sur l'Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc là, il y aura les prochains, il y a déjà, comment dire, les prochains concurrents de ce marché global qui sont sur place, qui peut-être ils arrivent de l'Afrique subsaharienne, qui n'ont pas le moyen non plus de traverser et qui vont être obligés de travailler dans ces secteurs-là.
L'Italie, comme la Belgique, comme la France, d'autres pays d'Europe ont un lourd passé colonial. Tu l'as un peu abordé là, mais est-ce que tu fais un lien direct avec une nouvelle forme de colonialisme ?
Alors, historiquement, il faut faire une différence. Ce n'est pas que l'Italie n'a pas un passé colonialiste, mais il est plus petit, pas relatif, mais plus petit par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Belgique. On a aussi, nous, eu notre conquête coloniale. Ce qui caractérise l'Italie, je pense, c'est surtout deux facteurs. Un, c'est vraiment l'emplacement géographique au cœur de la Méditerranée, donc au cœur de ces flux d'immigration. Deux, une volonté politique mise en place depuis, je pense, 2006-2008 avec Berlusconi. On l'a su pendant les printemps arabes qu'il avait fait des pactes avec Gaddafi pour envoyer des migrants vers l'Italie. En échange de ça, Gaddafi allait recevoir beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça, c'est tout à fait une démarche néocolonialiste pour aller remplir ses poches de travail à très bon marché et faire en sorte que cette économie-là puisse s'épanouir. Or, depuis une dizaine d'années, ces terres, les terres du sud de l'Italie, mais pas que, viennent d'être rachetées par beaucoup de multinationales. Donc là-bas, c'est vraiment un mélange étrange entre les affaires de la grande économie qui dépasse les contours nationaux, qui se mélange avec les réalités locales qui sont souvent mafieuses, avec des politiques nationales assez faibles sur l'agriculture, sur l'immigration, et je pense une vision européenne qui reste eurocentrique, en tout cas qui fait un lien avec l'Afrique, qui a toujours de subordination. Et on est très loin de se mettre sur le même niveau, de créer un dialogue vraiment de pair à pair, de donner les possibilités aux gens de ne pas partir, mais de cultiver. Voilà. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes en Calabre qui étaient fils de paysans au Sénégal, qui étaient fils de pêcheurs, qui ne pouvaient plus cultiver, qui ne pouvaient plus pêcher. Pourquoi ? Parce que la Chine, l'Angleterre, l'Amérique, l'Europe vont pêcher, vont cultiver, vont acheter. Et du coup, ces gens sont... on leur enlève la terre pour travailler. Et du coup, beaucoup sont obligés à partir.
Du coup, il y a comme une forme de colonialisme. D'une part, comme tu le dis, des certains pays qui viennent rafler les matières premières, comme c'était le cas à l'époque coloniale. Et on peut aussi voir une forme de colonialisme de ces multinationales qui aussi colonisent un pays, des lois, en tout cas les assouples, pour justement les façonner et y trouver leurs intérêts.
Oui, il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe là-bas, aucun. J'ai parlé avec des préfets, ils me disaient, c'est vachement difficile contrôler un champ. De toute façon, le patron fait enfuir les migrants, on tombe jamais sur le fait. Donc, il y a 10 000 excuses, en fait. La question, c'est qu'il n'y a pas la volonté de contrôler qui sont les propriétaires, les contrats de travail, d'où vont les fruits, les conditions de travaux, etc. Il n'y a pas non plus de contrôle sur l'autre bout de la chaîne, sur la consommation, parce que les supermarchés signent, les grandes chaînes de supermarchés signent des chartes éthique par laquelle ils s'engagent à vendre des produits qui ne sont pas produits dans des conditions d'esclavage. Alors, pour la majeure part des produits, ce n'est pas le cas, parce que les tomates qui viennent du sud d'Italie sont récoltées à Naples et après sont redistribuées dans toute Europe. Donc on les achète chez Auchan, chez Carrefour, partout. Donc il y a un manque de contrôle total.
Et cette forme d'esclavagisme moderne, tu n'as pas décidé de la traiter sous une approche documentaire. Tu as choisi le théâtre et d'autres formes, d'autres approches. Pourquoi ?
Parce que je suis pessimiste. Parce que j'ai voulu prendre de l'auteur. Parce que j'ai voulu chercher d'élargir le champ et me dire que ce scénario, que l'histoire a déjà connu et qui est en train de se répéter, que Pasolini cite en 64, il est à intégrer dans un phénomène plus large qui fait partie de notre espèce, de notre rapport à la Terre, à notre condition au monde, en fait. Une des dérives de cette invention qui est l'agriculture, qui remonte au néolithique, est qu'on a commencé à avoir des patrons de terre, on a commencé à construire des marchés couverts où stocker la marchandise, inventer la monnaie, le marché, l'échange, et du coup le pouvoir d'achat, et du coup l'inflation, du coup les finances, etc. Donc, je ne voulais pas limiter la question à un fait divers, militant, mais faire sentir la profondeur du champ, en fait, des causes. Après, les effets, on verra.
Pour ressentir ça, tu as utilisé beaucoup la forme plastique dans ta pièce de théâtre à Lanché. Peux-tu un peu nous décrire ton processus, ou en tout cas certains procédés utilisés?
Du moment où j'ai compris qu'il ne fallait pas informer le public, il fallait trouver un autre langage pour mettre en forme toutes ces questions. Et l'art plastique, donc l'art visuel, la sculpture, ont cette capacité d'être des arts synthétiques qui peuvent mettre ensemble beaucoup de couches avec des gestes, des objets très simples. Donc je me suis lancé là-dessus et j'ai voulu créer des tableaux où on utilise de la matière, des objets très pauvres comme le carton, le plastique. Et on fait des sculptures. Alors il y a le geste, comment dire, de remanipuler le monde, qui me parle beaucoup, de le changer, de raconter autre chose à partir de ces objets que finalement on a retrouvé là-bas. Les bidonvilles qu'on a visitées, c'était des bidonvilles de carton et de plastique. Donc mon idée, c'était de ramener ça sur le plateau, mais de le transformer. C'est comme un oignon, c'est enlever petit à petit différentes couches et montrer, ce n'est pas que des bidonvilles, c'est des gens, et ces gens ont une histoire, et cette histoire vient de loin, et ça va à la rencontre de notre histoire qu'on vit maintenant, dans l'impasse dans laquelle on est, etc. etc. Donc j'ai préféré l'évocation plutôt que l'information, laisser aussi les spectateurs libres de se balader dans ce paysage mouvant, faire ses propres associations. Oui, je pense que je lui fais beaucoup confiance.
Et l'évocation, elle est très forte. Enfin, moi, elle m'a prise très forte avec cette première scène.
Moi, je l'appelle la patate noire, cette première scène. Mais quelqu'un d'autre dit que c'est un coussin noir gonflé, assez grand, de dimension de 8 mètres sur 4. Donc, c'est une sculpture assez grande qu'on manipule, qu'on fait bouger dans l'espace. Donc, c'est une espèce d'énorme nuage noir ou vague noire qui crache et qui avale des êtres humains. Donc, il y a des personnes qui, ça leur évoque le naufrage. D'autres personnes accèdent à des niveaux conceptuels plus sophistiqués, comme c'est le capitalisme, ou c'est la vague d'immigration. Donc, c'est ça le jeu que je propose au spectateur. Je le mets face à un objet avec lequel il peut... Il peut le métaboliser, il peut le scinder, il peut le recomposer, il peut trouver d'autres idées, voyager selon sa mémoire. Bien évidemment, un fils de première ou deuxième génération d'immigrants va tout de suite rattacher un vécu. Donc cette première scène, assez forte, c'est un peu un dispositif infernal, un peu à la Dante, où il y a ce monstre, ce Léviathien qui mange et qui avale et qui crache des êtres sans fin.
Tu as nommé Pasolini.
Oui.
Tu as fait référence à un de ses textes publié au milieu des années 60. J'aimerais ça que tu nous en dises un peu plus sur ce texte et sur Pasolini et sa prophétie.
Les années 60 pour Pasolini, c'était des années hyper fertiles. Il a écrit les 6 pièces de théâtre, il était en plein de 3 courts-métrages, 2 films, il écrivait des romans, des poèmes. Donc tout d'un coup, il publie ce poème qui s'appelle Prophétie, qui parle en fait de ce qui est en train de passer dans les campagnes italiennes à ce moment-là. Et il appelle ça une révolution anthropologique. Lui, il dit, les gens qui travaillaient la terre ne travaillent plus la terre. Maintenant, du coup, il y aura un vide. Il y aura d'autres gens qui vont travailler la terre. Et il dit, ce sera les migrants africains. Donc, c'est une prophétie parce que c'est vraiment ce qui s'est passé après 40 ans. Mais Pasolini peut écrire cette poésie parce qu'il s'est baladé dans les campagnes italiennes pendant plus de 10 ans. Il a fait des interviews, il a filmé, il a vu. il a vraiment expérimenté. On sait très bien son attachement au réel. Il disait toujours, mon problème, c'est la réalité. Donc, il fait une photographie de l'Italie de ce moment. C'est quoi l'Italie de ce moment? C'est l'Italie du boom économique. Du coup, beaucoup de paysans vont se ouvriser, vont chercher du travail dans la ville, donc ils quittent les campagnes. Et il y a notamment une réforme agraire qui date de cette époque, qui voulait déjà à ce moment-là donner la terre à des gros propriétaires terriens. Et il y a une partie des paysans, en Calabre notamment, là où se sont passées les révoltes notamment, donc à Rosarno, en Calabre, qui dans les années 60, c'était un des villages communistes le plus communiste d'Europe, et bien eux se battent pour dire non, la terre c'est à nous, c'est aux paysans, c'est à qui travaille la terre. Et ils gagnent, la réforme ne passe pas. Et Pasolini raconte dans ce poème, qui est écrit en 6 strophes, et il les écrit sur le papier comme si c'était des croix, donc 6 croix. Donc il va à la ligne, il fait des lignes plus longues, des lignes plus courtes, et on voit, quand tu vois la page, tu vois des croix. Donc à la fois c'est un cimetière, et à la fois c'est, il fait appel à la croix du Christ, donc au signe du Christ. Et donc il décrit dans ce poème une terre lunaire, désertique, abandonnée par les hommes qui sont partis travailler à Rome, à Milan, etc. Et il part de l'arrivée de Ali aux yeux clairs. Donc il y a ce personnage, cet Africain, qui va débarquer avec tout son peuple, tous ses enfants, ses grands-pères, les ânes, etc. Il va débarquer en Calabre, en Sicile, et ils vont remonter. Ils vont remonter vers Naples, vers Rome, vers Paris, vers Londres, vers New York, pour renverser la vapeur. Donc là, il cite Gramsci. Donc il se dit bien qu'une fois arrivé sur le territoire européen, il y aura une compétition entre hommes. Et il dit, vous, les Italiens, vous allez armer les Italiens du Sud pour combattre contre l'immigration. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire l'Europe, d'armer le Sud pour voilà, pousser cette frontière? Donc c'est vraiment une prophétie. Et ça termine sur une note d'espoir, mais assez ironique. Il dit, eux, donc les Africains qui depuis toujours ont été humiliés, depuis toujours ont été esclavagisés, eux ils vont oublier leurs racines humbles, les religions pacifiques, et ils vont nous renverser. Il y a de l'ironie parce qu'ils imaginent ce peuple qui remonte l'Europe et l'Occident, qui passe par Rome, qui chope le pape, et qui avec le pape et le drapeau rouge de Trotsky, ils vont renverser la vapeur. Donc c'est un final un peu amer. Un peu amer.
Est-ce que tu veux rajouter autre chose dont on n'aurait pas discuté?
Je pense que le spectacle, par rapport au sujet, c'est clairement un spectacle de dénonciation. Ça se passe par des images. Ça évoque un tas de choses. Mais je crois qu'il a envie de créer un élan. Et ça, c'est important parce que si on ne va pas vers ces réalités vont faire leur chemin, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de conscience de classe. C'est un terme un peu vieux, ça. Mais c'est ce qui est en train de se construire. Ils sont en train de faire des assemblées générales à la campagne. Ils sont en train de dire, ah oui, mais nos droits, nos droits, nos droits. Et cette conscience va grandir, c'est inévitable. Peut-être que ça va mettre 10 ans, 20 ans, mais ils vont prétendre des droits, ils vont prétendre des conditions de vie et de travail meilleures. Et je pense que nous, on doit faire notre part là-dedans. Donc, voilà.